that second glass of wine that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking, all of the things that I've been feeling. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. I would be lying if I said that I'd live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. In case you to you, yeah, you're my everything. In case you didn't know, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life without you, even though.
Le journal du midi, Zeynab Diomandé.
Vous suivez le journal, bonjour à vous, bienvenue à la une de l'actualité. Augmentation de la vie chère annoncée par le président du Parlement, Adama Big Togo. Les réactions des députés à la suite de son discours tenu hier à la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au micro de Jean-Claude Mabéa. À l'international, au Nigeria, au moins 40 disparus dans le naufrage d'un bateau. Enfin, la hausse du prix de l'essence est le sujet qui est abordé avec Serge Parfait Dioman, expert international en pétrole et énergie. Il est l'invité de la rédaction et répond aux questions de Jean-Claude Comé. Ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Dans son discours, le président Adama Big Togo a évoqué la question relative à la vie chère. Au terme de son intervention, Jean-Claude Mabéa a tendu son micro sur place à des députés. Écoutons tour à tour Olivier Akoto du PDCI-RDA, Hubert Oulaï du PPACI et Charles Kanabé du RHDP.
On parle de la vie chère, on parle de la crise russo-ukrainienne qui a un véritable impact sur l'économie en Côte d'Ivoire, en Afrique en général. Et donc, il est important pour nous, en tant que parlementaires, de nous donner les moyens pour aussi échanger avec nos mandants.
Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Et l'argument qu'on nous ramène tous les jours, c'est la guerre d'Ukraine. C'est le plus vivable. Nous avons l'essence qui est passée à plus de 60 francs aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va y avoir une répercussion sur les coûts des denrées, sur le coût de la vie. Mais l'Ivoirien, comment il vit? C'est un problème. Et je crois qu'il y a nécessité pour le gouvernement d'associer toutes les autres couches, tous les hommes politiques de ce pays pour penser et trouver des solutions. Mais nous pensons qu'il y a d'autres solutions. Ces solutions-là Ce sont des solutions auxquelles l'opposition pense. Et le temps viendra où nous les exprimerons.
Nous sommes prêts et nous nous engagerons aux côtés donc de tous les autres parlementaires à faire en sorte que ce budget qui sera adopté soit à l'image de notre pays et puisse servir les populations. Il a dit, le train de vie devient de plus en plus difficile pour nos ménages. Notre rôle en tant que parlementaire, c'est d'accompagner nos gouvernants à faire en sorte que la productivité de notre pays puisse se faire sentir dans nos ménages.
Le week-end dernier s'est tenue à Korogo la triple cérémonie d'installation du nouveau bureau du Conseil régional du Poro, l'élection des vice-présidents, puis la passation de charges entre le bureau sortant et le bureau entrant, composé de 70 conseillers régionaux, dont 6 vice-présidents. À l'occasion de cette passation de charges, le nouveau président du Conseil régional, Fidel Sarasoro, a décliné ses ambitions pour la région.
Aujourd'hui, nous prenons les rênes. Les priorités sont claires. Nous sommes dans une zone de fragilité écologique. Il s'agit pour nous de nous assurer, ou en tout cas de travailler à la restauration et la protection de l'environnement. Nous avons également l'intention de créer un cadre qui favorise l'emploi durable pour les jeunes. L'emploi des jeunes ne sera durable que si nous mettons un accent tout particulier sur la formation, l'éducation et surtout la formation professionnelle. Et ce sera un pilier essentiel de l'action que nous allons mener au cours de ce mandat. Nous nous proposons également de créer un environnement propice à l'épanouissement des femmes, qui constitue un groupe important de la population dans le Poro. Nous avons pour souci de faire en sorte que la tradition et la valeur chère au Poro soient valorisées, afin que le tourisme, qui est une source importante de revenus, constitue pour les habitants de cette région une source d'épanouissement également. Nous avons pour ambition également de créer encore une fois un cadre pour que les habitants du Poro, tout comme les habitants de l'ensemble de la Côte d'Ivoire, vivent en paix, dans l'union et dans la concorde.
À l'instant, Fidel Sarasoro, propos recueillis par Marcel Bonny. Le PPACI a justifié samedi dans une conférence de son porte-parole sa large défaite aux récentes élections municipales, régionales et sénatoriales par la fraude dont il les affirme avoir été entachée. Mais pour le président du conseil d'administration de la Convention de la société civile ivoirienne, cet argument ne tient pas et souhaite que le PPACI soit conséquent avec lui-même, vu qu'en allant à ces élections, il semblait pourtant préparé aux fraudes qu'il allègue aujourd'hui, soutient Mahamadou Kouma, interrogé par Francis Kassi.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est une question de cohérence et de responsabilité. Le président Gbagbo lui-même, qui est le président du PPACI, a dit avant l'élection qu'il n'y a pas d'élection sans fraude. Il sait qu'il y aura forcément des fraudes. Nous sommes dans une démocratie en construction, mais qui n'est pas pour la politique de la chose dite. Il fera tout pour que le PPACI soit présent. Mais vous êtes allé en toute connaissance de cause. Il y a des institutions qui sont chargées d'encadrer les élections. Nous avons pris le temps d'observer. Notre système, il est bon. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont besoin d'être encadrés, mais de là à dire que la défaite du PPACI, c'est dû à la fraude. Je pense qu'il faut avoir le courage de faire son autocritique pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché objectivement, qu'est-ce qu'il va y faire pour l'avenir. Je souhaite que les responsables du PPACI vraiment revoient leur copie. L'une de nos recommandations, justement, à la Convention de la société civile ivoirienne, c'était à l'endroit des acteurs politiques. On leur a demandé d'avoir les fair play. Moi-même, quand j'ai entendu la déclaration du PPACI, j'avoue que je me suis posé beaucoup de questions. Je pense que ça ne participe pas à l'esprit fair play. Je ne pense pas que ce soit vraiment bon en termes de responsabilité.
À l'instant, Mahamadou Kouma en ligne avec Francis Kassi. L'augmentation du coût du carburant à la pompe en Côte d'Ivoire est diversement appréciée sur le terrain par les acteurs du transport, les commerçants et usagers. Après l'entrée en vigueur de cette décision, ceux-ci menacent d'augmenter le coût du transport si rien n'est fait. Les détails avec vous, Jean-Mélène Bitti.
Un jour après l'entrée en vigueur des nouveaux prix du carburant, le coût du transport n'a pas augmenté, comme nous le dit Kwaku Josué, passager de la ligne Yopougon-Bengerville.
Depuis le matin que je suis sorti de la maison, tout ce que j'emprunte comme taxi ou bien bac, en tout cas, je n'ai pas encore vu une augmentation des tarifs de transport. Notre souhait est que ce ne soit pas augmenté.
Même son de cloche pour ce chauffeur de la ligne 9 kg, Umputo Envotano, qui dit être encore au même tarif.
Ça nous arrange pas, mais on ne peut pas augmenter le transport aussi à cause de la population, parce que la vie est devenue très chère. Il faut qu'on revoie ce cas.
Contrairement aux autres lignes, à la gare de la Riviera 2, les chauffeurs, eux, s'apprêtent à ajuster le coût du transport dans les prochains jours. Salambiri Moussa s'explique.
Vraiment, notre ambition, c'est d'augmenter le transport. Parce que ça ne nous arrange même pas. Aujourd'hui, si tu t'en vas à la station avec 5000 francs, tu donnes 6 litres. Alors que d'habitude, on prenait 7 litres et quelque chose. Donc, même si c'est 100 francs dessus, là, ça peut nous arranger aussi.
Si l'augmentation du coût du carburant n'a pas impacté le prix du transport à Abidjan, ce n'est pas le cas du transport des marchandises, comme le fait savoir Karamoko Béatrice, commerçante au marché Gouro de Yopougon, Cypress.
Les filets, au début, on nous prenait à 500. Mais à cause du carburant, on nous prend 600. Nous, on demande qu'on diminue le carburant. Si ils ont diminué le carburant, nous aussi, on peut diminuer. Et puis, en fonction de ça, les femmes d'ici aussi, on peut diminuer aussi pour eux. Donc, ça arrange nous tous.
Rappelons que depuis le 1er octobre 2023, le litre à la pompe du super est de 875 francs CFA et le gasoil de 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA.
Les imams plaident pour la reconnaissance des mariages traditionnels et religieux par l'État, appel lancé à l'occasion de la célébration du Maouloud 2023 par Cheikh Aïma Ousmane Diakité, le président du COSIM. Qu'est-ce qui motive ce plaidoyer en faveur de la légalisation de ces deux types de mariages? La réponse de l'imam Diaby Mahmadou, imam de la mosquée Adja Mariam de Yopougon.
Les mariages administratifs là sont plus considérés que nos mariages religieux et traditionnels. Parce que aujourd'hui tu te maries, mais si tu ne vas pas faire un mariage à la mairie, tout ce que tu fournis comme papier, ça n'a pas d'effet. On considère comme vous êtes célibataire. Mais là, ce n'est pas juste. C'est que nos parents se sont assis au village pour sceller, ou bien à l'église, à la mosquée. Les prêtres ont prié, les imams ont prié pour que deux personnes de sexe différent puissent s'unir sur une bonne voie. Et puis on attend toujours des célibataires. Il y a un problème quand tu attends déjà l'histoire des LGBT. Mais on cherche à légaliser ça. On va attendre demain que eux se marient à la mairie. On accepte cela. Donc pourquoi c'est que Dieu nous a demandé de faire? On ne veut pas reconnaître cela. Donc il y a un problème. C'est tout cela. Le COSIM a analysé pour dire maintenant, il y a une injustice quelque part. Si on fait le constat, on fait plus de mariages religieux dans les mosquées, dans les églises, dans nos traditions que les mairies. Mais tout cela, on ne va pas le laisser sur le carreau. En prenant ça en considération, quelque part, ça arrange tout le monde. Les gens ne seront pas obligés d'une manière à aller faire le mariage civil. Voilà, parce que l'État ne le reconnaît pas. C'est la plaidoirie qu'aujourd'hui le COSIM fait pour que nos mariages qu'on fait dans nos lieux de culte et puis nos mariages traditionnels, qu'on se sente au même pied d'égalité que ceux qui sont déjà mariés dans les mairies ou dans les sous-préfectures.
L'imam Diaby Mamadou, joint par Sonia Ndian. L'amicale des seniors du lycée municipal de Korogo, rebaptisé lycée Dominique Ouattara, a fait don le week-end dernier de matériel didactique à l'administration du dit lycée d'une valeur d'1 500 000 francs CFA, témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
La remise de ce matériel didactique revêt une portée que nous signifie Konaté Lassina, président du bureau exécutif de l'amicale des seniors du lycée municipal de Korogo.
Les laboratoires, vous le remarquez, sont devenus des salles de classe aujourd'hui. Donc on fait très peu de pratiques. La pratique a été relayée par les images. Qui dit image parle de photocopies, ce qui nécessite des papiers RAM. Donc nous avons voulu aider l'administration pour produire les documents de support pédagogique, les évaluations pour les professeurs, pour redynamiser et contextualiser les cours. Ça va donc donner de la performance à nos élèves. La dimension sociale, c'est de l'aide à l'endroit des parents. Parce que les supports pédagogiques remplacent à bien des égards les manuels scolaires qui de plus en plus coûtent cher. Tous les parents n'ont pas les moyens d'offrir ces manuels-là à leurs enfants.
Des supports pédagogiques qui nous laissent indifférentes, Fatima Diabagaté, proviseur du lycée Dominique Ouattara de Korogo.
Cela va contribuer vraiment à la promotion de l'excellence dans notre établissement. Parce qu'aujourd'hui, un cours qui est fait sans support didactique n'est pas véritablement un cours. Et les élèves n'ont pas la connaissance requise.
Recherche de l'excellence avec des élèves disposés à jouer leur partition.
Yo Fanta Grace, ça va nous faciliter aussi d'avoir des feuilles de devoirs, faire beaucoup de devoirs. Le matériel nous permettra d'avoir un meilleur rendement scolaire.
Koulibaly Seydou, à travers ces matériels qu'ils sont venus nous donner ce matin, nous promettons de les utiliser pour notre propre bien, pour être vraiment des exemples.
Être des exemples en s'éloignant également de tous les maux et fléaux qui minent le milieu scolaire. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
La route de l'actualité nous mène à présent au Nigeria où au moins 40 passagers sont portés disparus et présumés morts après le naufrage d'un bateau lundi sur le fleuve Niger, a déclaré mardi un responsable local. Les élections au Burkina Faso ne sont pas une priorité par rapport à la sécurité. Ce n'est pas une priorité, je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité dans un pays en proie aux violences djihadistes. Telle est la substance d'une déclaration faite le vendredi 29 septembre 2023 à la télévision d'État par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Près d'un an après son arrivée au pouvoir par un coup d'État, professeur titulaire d'histoire politique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Mohamed Guessant, observateur au quotidien de la situation au Burkina Faso, dit partager totalement cette vision du capitaine Ibrahim Traoré. Professeur Mohamed Guessant s'en explique.
Je vais certainement vous surprendre et vous dire que je suis d'avis avec lui. On ne peut pas organiser des élections dans un pays occupé, selon certains médias, à 40%, d'autres à 30%. Comment voudriez-vous que dans une telle situation, on puisse organiser de façon sereine une élection qui est censée donner au pays un président incontesté, légitime, sorti des urnes? C'est vrai que c'est un discours prononcé par un militaire, donc on est méfiant vis-à-vis de ce discours, mais je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Il faut d'abord la sécurité pour qu'on puisse envisager, organiser des élections.
Et donc?
Je pense qu'il faut mutualiser d'abord les forces, d'abord au niveau national, au niveau de Burkina Faso, et puis pourquoi pas une aide africaine. Ça pourrait être la CEDEAO, ça pourrait être l'UA, pour aider ces pays en proie au djihadisme, assurer d'abord la sécurité et ensuite songer à des processus électoraux. Voilà.
Professeur Mohamed Guessant, joint par Jean-Claude Comé. Place à présent à l'invité de la rédaction. Depuis le 1er octobre 2023, les prix du super samplon et du gasoil connaissent une hausse de 60 francs CFA à la pompe, passant donc à 875 francs le litre pour le super et 715 francs CFA le litre pour le gasoil. Une situation, explique-t-on, qui est une répercussion des prix internationaux en matière de produits pétroliers. Serge Parfait-Dioman, expert international en pétrole et énergie, apporte des éléments de réponse dans un entretien conduit par Jean-Claude Comé.
Serge Parfait-Dioman, bonjour. Le marché des hydrocarbures note une hausse progressive du prix du baril de pétrole au niveau international. Pourquoi cette hausse?
Toute hausse du prix du baril sur le marché international est motivée par des facteurs endogènes et aussi liés à des facteurs exogènes. Au niveau des facteurs endogènes liés au corps du métier, l'on peut par exemple citer le fait que l'activité pétrolière elle-même devient onéreuse et c'est un coût qui est évidemment reporté d'année en année sur le coût du pétrole brut qui est cédé en vente. Concernant les facteurs exogènes, ce sont des aléas extérieurs qui viennent influer sur le prix. Par exemple, nous avons des facteurs qui sont saisonniers. Prenons le cas par exemple de la période d'hiver en Europe. C'est une période où il fait très froid et donc certains pays ont besoin de plus de produits pétroliers pour se chauffer entre autres. Cela engendre évidemment une demande supplémentaire et cette demande fait que les prix partent à la hausse du fait qu'il y a une demande qui est abondante sur ce produit. Mais nous avons par exemple aussi des facteurs exogènes qui ne sont pas saisonniers mais qui sont opportunistes. Par exemple, quand nous avons des aléas conflictuels. Quand nous avons des pays qui sont en conflit dans certaines régions productrices d'or noir, lorsqu'il y a des conflits, ce sont des situations, des aléas conflictuels qui affolent les marchés. Parce que l'on peut craindre qu'il puisse y avoir une récession de pétrole brut sur le marché et donc les traders, les acheteurs, les compagnies commencent à faire des approvisionnements et cet afflux de demande crée une hausse sur les prix du marché.
Comment des conflits dans le monde impactent-ils les cours mondiaux des produits pétroliers?
Pour comprendre comment les conflits dans le monde peuvent impacter le prix du baril, on peut prendre juste deux exemples pour mieux comprendre. Prenons par exemple le cas de la guerre russo-ukrainienne. Nous savons que la Russie, par exemple, est une grande productrice d'or noir, que ce soit du pétrole, ou du gaz. Et donc, lorsqu'il y a un conflit, par exemple, en Russie, et qu'on met un embargo sur ce pays, ça veut dire que nous mettons dans une situation de difficulté d'approvisionnement venant de la part de la Russie. Et donc, ce manque de produits sur le marché que devrait délivrer la Russie crée une récession sur la disponibilité de pétrole brut et donc une hausse des prix parce qu'il en manque. Deuxième lieu, ça peut être par exemple le conflit ouvert en ce moment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous savons que l'Azerbaïdjan est par exemple le pays qui produit le pétrole brut le plus riche au monde. Ce pétrole brut s'appelle l'Azeri. Il est très prisé et même il coûte plus cher que le Brent dont on parle souvent. Et donc, quand il y a un conflit ouvert aujourd'hui, comme c'est le cas, il est évident que les marchés vont s'affoler parce que les gens vont se dire que le pétrole azéri va manquer. Et donc, cet affolement crée une demande des gens qui vont faire des provisions en anticipation. Et ces provisions en anticipation vont engendrer une hausse des prix du baril. Mais dans tous les cas, lorsque ces hausses s'opèrent, cela va engendrer aussi des tensions sur le prix des convoyeurs. Quand il y a un conflit dans une zone, donc les cargos qui sont chargés de faire le transport du pétrole brut, par exemple, seront obligés de faire des détours. Et ces détours, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une zone conflictuelle, vont engendrer des coûts supplémentaires sur le transport. Et tout cela va se répercuter directement sur le prix du pétrole brut qui est cédé.
En quoi la décision des pays producteurs, notamment la Russie et l'Arabie Saoudite, influe-t-elle sur les cours mondiaux ?
Le schéma est que nous avons un embargo qui est mis sur la Russie. La Russie, dans un second temps, va chercher des débouchés, va en trouver par exemple en Arabie Saoudite. La Russie va donc réduire sa production et va trouver un marché vers l'Arabie Saoudite qui va l'acheter à un prix décoté. Mais en achetant à un prix décoté, l'Arabie Saoudite ne peut pas acheter le pétrole russe et continuer à produire la même valeur qu'elle était. Donc elle aussi, elle va baisser sa production. Et cette baisse cumulée entre l'Arabie Saoudite et la Russie, c'est quand même quelque chose qui se chiffre à plus de 2 millions de barils par jour. C'est une quantité énorme et ça influe sur le marché.
Et puis, en quoi le système de soutien des prix décidé notamment par la Côte d'Ivoire permet de juguler le prix de vente à la pompe?
C'est un système de subvention d'ordre social qu'il faut comprendre, mais il ne peut pas perdurer parce qu'on ne peut pas subventionner une matière dont les prix sont en train de s'envoler sur les places de marché international. Donc, c'est une situation qui ne peut pas perdurer et qui appelle d'office une action de répercussion comme dans certains pays ou une action d'ajustement des prix qui est l'option choisie pour la Côte d'Ivoire pour ne pas que le consommateur ressente en direct les fluctuations qui se passent sur les places de marché international. Mais dans tous les cas, le blocage des prix ne peut plus perdurer au risque de voir s'écrouler le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire.
Serge Parfait-Dioman, expert international des questions pétrolières et énergétiques, je vous remercie.
Serge Parfait-Dioman, expert international en pétrole, répondait aux questions de Jean-Claude Comé. C'est la fin de ce journal, le rappel de ses titres. Augmentation de la vie chère annoncée par le président du Parlement Adama Big Togo. Les réactions des députés à la suite de son discours tenu hier à la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et puis à l'international au Niger, au moins 40 disparus dans le naufrage d'un bateau. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse avec Francis Cassis.
Bonjour à tous. À en croire vos journaux, les regards sont tournés.